Vous écoutez RTL.
RTL Matin.
Yves Calvi.
7h46, très bonne journée à vous tous qui nous écoutez. Elisabeth Martichoux, vous recevez donc ce matin Florian Philippot, président du parti Les Patriotes.
Bonjour et merci d'être dans ce studio d'RTL, Florian Philippot.
Bonjour, merci à vous.
Avant de dévoiler donc cette charte que vous présentez aujourd'hui, hein, qui va constituer les fondements de votre parti, une question d'actualité. Est-ce qu'il fallait un deuxième procès Mera ? Le parquet général a-t-il eu raison de faire appel du verdict de 20 ans infligé aux frères de Mohamed Mera ?
Oui, je crois que c'est préférable. Parce que le premier verdict a largement été incompris. Et dans ces cas-là, je pense qu'il est préférable et que le parquet général a été dans son rôle. Et qu'il est préférable qu'on remette les choses à plat et qu'on puisse aller vers ce deuxième procès pour que les choses se passent de manière plus sereine et peut-être plus convaincante pour tout le monde.
Remettre les choses à plat, il y a eu 6 semaines de débat qui
oui,
ont largement permis d'exposer tous les points de vue. Et il n'y a eu aucune preuve effective apportée de complicité d'assassinat.
Mais moi, je ne juge pas les gens avant qu'ils soient jugés. Je dis simplement, quand il y a des doutes qui subsistent, une incompréhension qui subsiste pour un sujet aussi grave, on parle quand même d'enfants qui ont été tués, de militaires qui ont été tués, alors pas par la personne qui est jugée là, mais en tout cas, il y a des choses qui ont été dites, des choses graves, très graves qui ont été faites, ça mérite qu'on prenne le temps. On a
le
déjà
déroulement
pris 6 semaines,
même
et ben,
du
c'est
procès
pas grave, on prendra
nécessite...
quelques semaines de plus.
Parce que ce n'est pas la justice de régler le terrible sujet du terrorisme islamiste qui frappe la société, a par exemple écrit ce week-end Maître Jakubowicz, qui est président de la LICRA, et partie civile dans ce procès.
Oui, non, ça n'est pas que à la justice, mais la justice a son rôle à jouer, bien sûr. Mais bien sûr qu'il y a un rôle de l'État de protection et de dissuasion sur le terrorisme islamiste et qui est très mal joué ou très peu joué aujourd'hui, notamment quand on sait qu'il y a encore environ 150 mosquées salafistes en France. Qu'on est même en train de rouvrir, après l'état d'urgence, des lieux de culte qui étaient jugés dangereux et que notre pays est toujours sans frontières.
Enfin, dans cette affaire,
quand on sait tout ça, on se dit qu'il y a beaucoup à faire, mais la justice
là,
a son rôle à jouer également,
là, il s'agit de droit.
Bien évidemment.
Charlie Hebdo menacé de mort après la publication d'un dessin représentant Tariq Ramadan, qui est accusé de viol et harcèlement sexuel. Il est représenté avec une énorme érection sous titre « Le sixième pilier de l'islam ». Vous êtes solidaire de Charlie Hebdo ?
Totalement, totalement. Je suis solidaire de Charlie Hebdo, je l'ai toujours été. Qu'on apprécie ou pas leur une, ça n'est pas du tout la question, c'est simplement la question de la liberté d'expression. Et de voir de plus en plus de menaces contre cette liberté d'expression, jusqu'à des menaces de mort, eh bien, ça en dit long sur la reculade de notre démocratie.
Mais voilà. Ça en dit long aussi sur la question religieuse, qui est encore extrêmement inflammable dans le pays.
Mais elle est trop présente dans le pays. Elle est trop présente, cette question religieuse. Maintenant, elle est en permanence, elle envahit en permanence le débat public, où on est sommé de quasiment de dire si on croit ou on ne croit pas, de quelle religion on est, est-ce qu'on applique bien la religion. Et puis, je veux dire, c'est écrasant, c'est fatigant, c'est étouffant. Je pense que la religion, c'est une affaire personnelle. Croire, ça peut être magnifique, mais c'est une affaire personnelle. Et que l'État doit organiser les relations sociales, les relations politiques entre les citoyens dans le cadre de la laïcité.
Et dans votre charte, d'ailleurs...
Mais le fait que la religion soit aussi présente, et que notamment les questions autour de l'islam soient aussi présentes, témoigne du fait que le communautarisme avance quand la République recule. Il faut faire l'inverse. Il faut enclencher un mouvement d'avancée de la République et de recul des communautarismes.
Est-ce que vous ne faites pas un amalgame dans votre charte ? Alors, on va tout de suite aller au numéro 20. Il y a 26 principes, on va y revenir.
Ouais.
Évidemment, mais le numéro 20, c'est une... Vous dénoncez en quelque sorte les groupes de pression, vous rappelez votre attachement à la laïcité, on l'a compris, notamment en luttant contre l'islamisme, la République permet aux Français musulmans de pratiquer leur religion. Faites pas un amalgame immédiatement, groupe de pression égale islamisme.
Écoutez, non, regardez, on met les intimidations de tout groupe, mais c'est vrai que cette phrase est importante. En luttant contre l'islamisme, la République permet notamment aux Français musulmans de pratiquer leur religion sans risquer d'être assimilés à cet extrémisme. L'extrémisme étant l'islamisme. Oui, nous pensons qu'il faut libérer nos compatriotes musulmans.
Vous ne parlez pas des autres groupes de pression, vous ne parlez que de celui-là.
On les cite.
Il y en a d'autres
quand on dit tous les groupes de pression, mais... permettez-nous de faire un sort particulier au fondamentalisme islamiste qui est celui qui est responsable de peut-être 200 ou 250 morts et quelques centaines de blessés depuis quelques années dans notre pays et qui, au-delà des attentats meurtriers qu'il a commis, Oui, exerce une pression sur certains de nos compatriotes musulmans dans certains quartiers où il faut, où certains qui ont pourtant une pratique de l'islam tout à fait modérée sont sommés de respecter telle ou telle pratique. Alors ça peut être alimentaire, ça peut être vestimentaire, ça peut être une pratique de vie qui n'est pas conforme à leur pratique à eux de l'islam.
Voilà. Je relève simplement que dans cette charte, 26 principes.
Elle est profondément ancrée dans les principes républicains.
Constitutif de votre mouvement, c'est un peu le fond de sauce de ce que sera votre ligne politique. On n'est pas encore dans la déclinaison des mesures, mais ce sont des principes. Dans ces principes, c'est en tout cas les Français musulmans dont vous parlez et pas des autres.
Pour les libérer.
Juste le signaler. Pour les libérer, sans doute.
C'est plutôt positif. Mais je vous signale, Madame Martius, si vous avez lu et vous l'avez fait attentivement, cette charte, qui est plus qu'un fond de sauce, qui est une philosophie.
Oui, c'était pas négatif.
Non, mais j'ai bien compris. Qui fixe les grands objectifs politiques de notre mouvement. Et chacun ira voir. C'est très ancré dans la modernité. Très ancré dans la prospective et très ancré dans les principes républicains. Parce que nous pensons, vous savez, Charles de Gaulle disait, le patriotisme, c'est aimer son pays, c'est l'amour de son pays, le nationalisme, c'est détester celui des autres. C'est pour ça qu'on s'appelle les patriotes. C'est parce que nous aimons notre pays sans détester celui des autres, tout au contraire. Et nous pensons que c'est en étant profondément inscrit, ancré dans un héritage républicain, que le patriotisme peut rassembler suffisamment et gagner en France.
Alors, dans cette charte, votre priorité, c'est la sortie de l'Europe, c'est number one, c'est le premier paragraphe, on va y revenir longuement. Mais ce n'est qu'au 21e paragraphe que vous évoquez la question migratoire. C'est pour marquer votre différence avec Marine Le Pen ?
C'est, mis à part la question de la souveraineté qu'on a mis en tête, et d'ailleurs de ce qu'on a appelé la nouvelle démocratie par les référendums, et vraiment faire confiance au peuple bien davantage qu'aujourd'hui. Le reste, n'y voyez pas un ordre de priorité ou d'hierarchie, parce que...
Vous reléguez derrière la question européenne, le droit des animaux, l'écologie, l'égalité aux femmes, la question budgétaire, numéro 21, la lutte contre l'immigration.
Ce n'est pas un ordre de priorité, mais c'est vrai que nous avons parlé de l'immigration de manière très sérieuse dans ce sujet. Il faut réduire considérablement l'immigration massive, mais il faut le faire de manière sérieuse. Voilà, on n'a pas besoin d'excès verbaux.
Ça veut dire quoi, manière sérieuse?
Ça veut dire qu'il faut prendre... Il y a un sujet, il y a une immigration qui est beaucoup trop importante dans notre pays, et il faut y apporter des réponses sérieuses, républicaines. Il faut retrouver des frontières nationales. Il faut faire en sorte qu'on ait une régulation stricte
de tout cela. Le Front National, selon vous, se reconcentre sur l'immigration. Donc vous, ce n'est pas tout à fait le cas. Vous considérez que c'est une erreur?
Effectivement.
Vous considérez que c'est une erreur?
Ne parler que d'immigration, c'est une erreur.
Se reconcentrer sur l'immigration.
Oui, je le pense. Bien sûr. C'est un sujet important, mais on ne peut pas parler que de cela. C'est pour ça que cette charte va sur les grandes questions du 21e siècle. Le défi écologique, et la question de la transition énergétique.
La question européenne, c'est
la
votre
question
priorité.
Européenne, oui, on peut
la
y revenir,
sortie
oui.
de l'Europe, c'est l'alpha et l'oméga de votre ligne politique. Les Français n'en ont pas voulu. Ils veulent, pour la majorité d'entre eux, rester dans l'Europe.
On ne sait pas très bien ce que veulent les Français, on ne les a jamais interrogés.
Ils n'ont pas voté en majorité pour un parti ou pour des partis qui prenaient la sortie de l'Europe ou la sortie de l'euro.
D'abord, le camp souverainiste au sens large n'a jamais fait autant de voix au premier tour de l'élection présidentielle, près de 50% des voix. Mais au-delà de ça, la dernière fois qu'on a fait un référendum sur l'Union européenne, les Français ont dit non, et c'était à la Constitution européenne. Et figurez-vous que dans les sondages, si votre mesure...
C'est pas tout à fait pareil, la Constitution européenne et la sortie de l'Europe.
Si ce sont les sondages, trois mois avant ce vote en 2005, les sondages mettaient un oui à 70%. Donc vous voyez, le débat démocratique a fait progresser et fait triompher le non. Mais oui, nous disons dans ce premier paragraphe, faut arrêter de mentir aux gens. On ne va pas avoir une autre Europe. On ne va pas réformer l'Europe. Tout ça, ce sont des mensonges. Tout ça, ça n'est pas possible par les règles mêmes des traités. Et puis l'expérience nous montre que ça n'est pas possible. Ça fait 40 ans qu'il est promis aux gens de réformer l'Europe.
Un an et demi après le Brexit, les Français sont ni sourds ni aveugles. Ils voient bien que les négociations s'enlisent, que personne ne voit vraiment poindre la solution pour l'instant.
Mais ils voient surtout
et que l'économie
pays...
britannique se ralentit.
Ils voient un pays qui sort de la prison. Qui va retrouver son indépendance, qui sort de la prison, qui est en train de sortir de la prison et qui dit, nous demain, on va négocier nous-mêmes nos propres accords commerciaux dans notre intérêt et l'intérêt de notre industrie, de la technologie, de l'innovation et de l'emploi. Ce qui n'est pas possible côté Union européenne, où on nous impose les grands traités de libre-échange, comme le CETA avec le Canada, etc. Il voit que c'est un pays qui dit, demain, on va pouvoir réguler beaucoup plus sérieusement l'immigration. Ce qui n'est pas possible avec l'Union européenne et avec Schengen.
Est-ce que vous admettez que utiliser l'article 50, comme vous dites que vous voulez le faire, et ce qu'essayent de faire les Britanniques, ça ne se passe pas bien. Rappelez-vous, quand le Brexit a été voté, on se disait, dans un an, ils sont sortis de l'Europe. Pas du tout, et on ne voit même pas encore la voie par laquelle ils pourront le faire.
L'article 50 des traités dit que ça peut mettre 2 ans. Mais je ne suis pas d'accord. De toute façon, les médias français diront, quoi qu'il arrive, que ça se passe toujours mal. parce qu'ils sont contre le Brexit depuis le début, ils ont fait campagne contre pendant le référendum, ils étaient très tristes le soir du résultat, et depuis ils nous disent que c'est la catastrophe. Sauf que quand vous allez au Royaume-Uni, c'est pas du tout ce qui se passe. Et ce qui devrait nous interroger aujourd'hui, c'est que quand on fait de la politique, et que quand campagne électorale après campagne électorale, campagne présidentielle après campagne présidentielle, on fait des promesses aux Français qui ne peuvent pas être tenues. Je parle du patriotisme économique, je parle de la régulation de l'immigration, je parle du défi écologique, je parle de l'idée d'aider nos agriculteurs, l'idée de se protéger du glyphosate, par exemple du glyphosate, par exemple se protéger des OGM. Tout cela, il faut le savoir, et les Français doivent le savoir, c'est interdit par l'Union européenne.
Voilà.
Donc si on veut redonner un vrai sens à la démocratie et au choix démocratique, il faut qu'on soit un pays indépendant.
Merci beaucoup. 26 mesures que vous dévoilez donc aujourd'hui.
Je précise juste qu'on remplacera cette Union européenne par une coopération saine entre les nations. Nous, on veut des liens d'amitié, de coopération et de paix, mais on veut des liens utiles et démocratiques.
Merci beaucoup, Florian Philippot, d'avoir été ce matin sur RTL.
On vous a souvent vu à leur côté. Les forains ont raison de s'opposer à la suppression du marché de Noël sur les Champs-Élysées.
Je les soutiens à 100%. Je ne comprends pas que Mme Hidalgo, à ce point, semble détester les forains et semble détester Noël. Moi, je pense que le marché de Noël, qui faisait venir 15 millions de personnes chaque année dans la capitale, bah, c'est un peu de joie et un peu de fête dans une époque qui est quand même assez morose.
En interview à retrouver dans son intégralité sur le site rtl.fr. Merci Florian Philippot.